franceinter.fr.
Bonsoir et merci d'être avec nous pour une pop, etc. exceptionnelle dans la série des Hommes de l'Ombre. Ce soir, je tire le portrait de Tony Visconti, formidable producteur. Il est responsable de tubes comme Heroes de David Bowie, Get It On de T-Rex ou Andy de Rita Mitsouko. Et c'est grâce à lui que David Bowie a réussi un comeback médiatique et commercial sans précédent en mars dernier. Après avoir été numéro 1 dans 18 pays, il est l'album le plus vendu en Grande-Bretagne de l'année. Et en France, il frôle le disque platine. Et c'est un album France Inter, The Next Day dans Pop Etc.
Je suis Tony Visconti avec Valley sur Pop Etc.
Sculptures of them, then drags them to the river's bank and the cart. The soggy paper bodies wash ashore in the dark.
Le comeback de David Bowie était à la hauteur de son talent pour l'image. Alors que les rumeurs les plus folles circulaient sur l'état de la santé de la star, il aurait été en train de mourir ou légumes, Bowie pose une bombe. Le 8 janvier 2013, le jour de son 66e anniversaire, il annonce la sortie de The Next Day pour le mois de mars, son premier album en 10 ans. Le projet était en marche depuis 2 ans. Les musiciens et son producteur Tony Visconti étaient contractuellement tenus au silence. Par miracle, il n'y a pas eu de fuite. Quand j'ai parlé avec Visconti en avril 2012 pour une pop, etc., Marc Bolan, il m'avait parlé d'un projet X. J'étais très loin de penser qu'il s'agissait d'un nouvel album de David Bowie. Je l'ai recontacté au début de l'année et il a accepté ma demande d'interview. L'entretien a lieu au Studio Human à New York. Le lieu appartient au fils de Visconti, Morgan. Morgan est sound designer pour la radio et la télévision américaine. Dans cet endroit spacieux aux meubles design, Tony Visconti a sa pièce à lui, sa chambre, comme il aime à dire. 25 mètres carrés de murs rouges, on dirait le ventre ouaté d'une maman. L'espace est bien rempli et sans être oppressante. Il y a une console de mixage, des micros, quelques écrans d'ordinateur, plusieurs guitares accrochées au mur, un gros canapé qui vous invite à vous écrouler dedans et une toute petite cabine de voix. C'est ici que le producteur a enregistré certaines voix de David Bowie pour son dernier album. Et c'est ici qu'il a mixé. On prend place face à face. Tony règle le son de nos deux micros sur deux pistes différentes. Certes, je serai coupé au montage, mais mon émotion est grande. C'est l'homme responsable de quelques-uns des plus gros tubes de la pop qui est en train de m'enregistrer. Je suis très vite à l'aise car Tony Visconti est un homme extrêmement affable et c'est un excellent conteur. Depuis 1969, Visconti a produit plus de 9 albums pour David Bowie, dont le dernier en date, avant The Next Day, Reality, en 1993. Je lui ai demandé pourquoi, en 50 ans de carrière, malgré tous ses nombreux producteurs, le chanteur revenait toujours vers lui.
He could work with anybody he wants to, you know, let's face it, but we have a special relationship. We have
David pourrait travailler avec n'importe qui, mais nous avons une relation spéciale, un son spécial. Et j'aime croire que je suis le producteur qui vous donne le plus de David Bowie. Parfois, il travaille avec quelqu'un d'autre. Nile Rodgers, par exemple, c'est un producteur phénoménal. Je l'adore et j'aime son travail. Mais ça sonne comme un disque de Chic, il y a beaucoup de Nile. J'essaye de vous donner beaucoup de David Bowie. Il joue lui-même ses claviers quand il travaille avec moi, je ne sais pas pourquoi, même ses parties de guitare. Parfois, quand il travaille avec d'autres producteurs, il délègue plus aux musiciens de studio. Je trouve ça super. Je ne suis pas le seul producteur à avoir su faire sortir l'essence de Bowie. Il y en a eu d'autres qui ont fait un super boulot. Je ne sais pas pourquoi, mais il revient toujours vers moi et nous retravaillons ensemble. Je ne m'attends pas à ce qu'il ne travaille qu'avec moi. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé et ça ne me contrarie pas. Nous travaillons tous les deux dans la musique et nous avons accès à tellement de talents. On a le droit de travailler avec d'autres. Et je ne lui en veux pas du tout. Je préfère nettement travailler avec des grosses personnalités qui cherchent à établir leur propre standard artistique. Des gens comme Bowie ou Mark Bolan. C'était des icônes. Ils étaient plus grands que nature. C'est avec ce genre d'artistes que je travaille le mieux.
C'était le producteur Tony Visconti. Il est mon invité ce soir dans Pop, etc. L'entretien a été enregistré au mois d'avril à New York dans son studio. Tony Visconti est né le 24 avril 1944 à Brooklyn. Son père est accordéoniste à 16 heures, chanteur amateur dans une quatuor de barbier. Sa mère est aussi mélomane. Les deux sont issus de l'immigration italienne de la fin du 19e siècle. Alors qu'aujourd'hui, c'est le berceau du renouveau de rock indépendant américain, que reste-t-il de Brooklyn, de la jeunesse de Tony?
Aux États-Unis, c'est sans doute le lieu numéro un pour la musique. Williamsburg, on trouve des musiciens à Greenpoint ou Park Slope. Mais ce n'est plus le Brooklyn de mon enfance. J'ai grandi dans un quartier italo-américain où tout le monde parlait comme Marlon Brando dans Le Parrain.
Marlon Brando, ils parlaient comme le gars de The Godfather, comme ça.
Ou alors il parlait comme Woody Allen. Mes amis juifs parlaient comme lui. J'étais à l'école avec David Geffen, le futur producteur, pendant 3 ans. À l'époque, Brooklyn était un endroit fantastique. Et puis c'est devenu autre chose. Les accents que je viens de vous faire, vous ne les entendrez plus. Ces gens-là sont partis. Il n'y a que les vieux qui parlent encore avec ces accents de Brooklyn. Les nouveaux arrivants ont l'air de venir du Midwest, même de Londres. On entend des accents britanniques, il y a même des Français qui vivent à Williamsburg aujourd'hui. C'est un endroit chic et branché. Et c'est aussi là que vous trouverez les meilleurs studios d'enregistrement de New York. Car depuis 10 ans, ils ont tous quitté Manhattan. Ça pulse à Brooklyn, même si ça n'est plus le Brooklyn de mon enfance.
Josephine et Tony Visconti Sr. offrent un ukulélé au jeune Tony à l'âge de 5 ans. À 7 ans, il passe dans une émission de télé locale. Suite à cela, il sait qu'il veut travailler dans la musique. Il veut être une pop star. Il reçoit sa première guitare dès qu'il peut en tenir une. Il a 11 ans. Ses parents reconnaissent le talent de leur fils comme son prof de musique, Léon Bloch. Ils inscrivent Tony dans un programme intensif de musique dans un lycée new-yorkais. Sur 8 cours par jour, 5 sont dédiés à la musique et seulement 3 aux maths, à l'anglais et à l'histoire. Le tout sans pause déjeuner, m'a-t-il raconté. Grâce à Bloch, il se passionne pour Bach. Mais c'est un garçon de son époque. Ses idoles sont celles qui passent à la radio.
Mes idoles étaient clairement les icônes de l'époque. J'adorais Elvis, j'ai grandi en l'écoutant, mais aussi Buddy Holly, Chuck Berry et Little Richard. Grâce à Little Richard, j'ai découvert toute la musique de la Nouvelle-Orléans. Shirley Ann Lee, Ernie Cado, tous ces disques de la Nouvelle-Orléans. À l'époque, je ne réalisais pas que géographiquement, le R&B venait de ce coin. Plus tard, quand j'étais adolescent, les Beatles ont commencé à sortir toutes leurs chansons fabuleuses, comme She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Donc, quand j'ai entendu la musique des Beatles au début des années 60, ça a été le moment décisif où je me suis dit, il faut que j'apprenne à faire des disques, car ces disques-là sont magiques. Ça n'avait rien à voir avec les disques que je faisais à New York dans un studio rempli de musiciens qui enregistraient 4 chansons en 3 heures. Les Beatles faisaient quelque chose de différent. Ils utilisaient le studio comme un instrument de musique. Et ça s'entendait. Je me disais, ils sont en train de faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Les sons sont meilleurs, c'est plus élaboré. C'était un peu comme Les Paul et Mary Ford qui enregistraient en multipiste. Les Beatles et leur producteur, George Martin, faisaient des trucs comme ça. Je me demandais où était ma place dans ce monde. J'avais une formation classique et jazz, mais je voulais faire des disques de rock'n'roll et de pop. Et c'est lorsque j'ai lu le nom de George Martin dans les crédits des disques des Beatles que je me suis dit, c'est ça ma place, c'est ça que je peux faire. Et je me suis dit que ce serait un meilleur boulot, car après avoir découvert le travail du producteur, je me suis dit que ce serait plus amusant que d'être la rockstar. C'était plus intéressant. Je pourrais tout faire et personne ne pourrait m'arrêter ou me dire comment il fallait faire. En gros, je deviendrais le patron. Et ça, c'était un autre point positif pour moi. Je devais avoir aux alentours de 20 ans quand j'ai commencé à faire cette transition. Mais j'avais un seul problème. Je voulais aller à Londres. Et comme je suis né et que j'ai grandi à Brooklyn, dans un milieu ouvrier, je n'avais pas la moindre idée de comment faire. Je ne savais même pas comment acheter un billet d'avion et je ne connaissais personne qui vivait à Londres. Ça s'est bien fini, mais c'était un véritable dilemme pendant un an. Je ne savais ni comment faire, ni par où commencer.
Mais Tony Visconti a le don d'être au bon endroit, au bon moment.
Il faut être là où ça se passe. Et j'avais un bon instinct pour ça. Je connais beaucoup de chanteurs qui restent plantés devant leurs ordinateurs ou à l'époque devant leur micro, à attendre que le téléphone sonne et que quelqu'un leur propose un contrat. Moi, je suis sorti de chez moi pour aller chercher du travail. Et bien sûr, le fait de vivre à New York était un plus. Je pouvais sortir de chez moi, prendre le métro et me retrouver en quelques minutes au centre de Manhattan où se trouvaient tous les studios d'enregistrement. Je pouvais rencontrer un musicien dans un café et ça m'a donné l'occasion de me faire connaître. Et c'est comme ça que j'ai trouvé pas mal de boulot à un si jeune âge, grâce à mes rencontres et en me rendant disponible. Alors, lorsque j'ai rencontré mon mentor, Denis Cordel, je travaillais pour un éditeur de musique pour qui je produisais des maquettes. Un jour, j'étais au studio et je suis allé à la fontaine à eau où j'ai rencontré mon premier anglais. Et il se trouve qu'il était producteur de disques. Et en plus, il travaillait à Londres. Il était de passage à New York. C'était le producteur de Georgie Fame. Il avait engagé un groupe de 10 musiciens pour enregistrer un morceau. Shine so sincere, sunny one so true. I love. Il n'avait jamais travaillé à New York alors que moi, oui. Je lui ai demandé de me montrer ses arrangements, en fait, il n'en avait pas. Donc j'ai demandé à écouter la chanson. Je lui ai dit, tu sais, ici, t'es à New York. Les musiciens vont te demander un cachet d'arrangeur car ils vont faire les arrangements en direct pendant l'enregistrement. New York était déjà très syndiqué, aujourd'hui encore, ça l'a inquiété. Donc je lui ai écrit les arrangements en une demi-heure, on les a photocopiés, puis on a couru les rues de New York pour se rendre au studio. On n'a même pas pris un taxi. On était en retard. À l'arrivée, on a placé les partitions devant les musiciens et ça a été un succès total. Après coup, il s'est retourné vers moi et m'a dit « Ça te dirait de venir à Londres pour être mon assistant ?» Ça s'est vraiment passé comme ça, par miracle.
C'est le producteur Tony Visconti. Je brosse son portrait ce soir. Il m'a reçu dans son studio à Manhattan en avril dernier. À quelques jours de ses 27 ans, en avril 1967, Tony Visconti arrive à Londres avec 4 guitares sous le bras et sans visa de travail. Il lui faut une sacrée pirouette pour passer la douane, mais il y arrive. Direction le centre, le Swinging London est en plein boom. L'album des Beatles, Revolver, est sorti un an plus tôt. Tony est aux anges.
Revolver des Beatles était mon album préféré de tous les temps. J'ai dû l'écouter plus de 500 fois. Quand je suis arrivé à Londres, je dormais chez Denis Cordel. Lors de ma deuxième nuit là-bas, on sonne à la porte. C'était un de ses amis qui travaillait chez EMI. Il est entré avec un disque à l'étiquette blanche caché sous son manteau, il était minuit. Tout ça était très mystérieux, on serait cru dans un film d'espionnage. Il a brandi le disque en disant « C'est le nouvel album des Beatles ». Il n'y avait rien écrit dessus, pas même « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ». C'était juste le nouveau disque des Beatles. Personne, même pas lui, ne savait comment il s'appelait. Il l'avait pris sur le bureau de son patron à la fin de la journée. Il nous a dit qu'il l'avait seulement pour la nuit et qu'il fallait qu'il le remette exactement au même endroit avant que son patron n'arrive au bureau. J'ai cru que j'étais mort et que j'arrivais au paradis. J'ai entendu le nouvel album des Beatles 3 mois avant sa sortie. Je savais que tous mes rêves étaient en train de se réaliser. Me voilà à Londres. J'avais un boulot et au bout de quelques jours, je me suis produit sur scène avec Denny Lane, Future Wings, dans une salle où se trouvaient les 4 membres des Beatles. Donc ils savaient qui j'étais et bien sûr, je savais qui ils étaient. C'était un mois très important dans ma vie, avril 67.
Tony Visconti travaille toujours pour Cordel à Essex Music. Comme à New York, il produit des maquettes d'artistes. Il y croise les Procol Harum, The Moody Blues ou Manfred Mann. Américain, new-yorkais, Tony est un personnage exotique. Il vient de la ville la plus excitante du monde. Les musiciens anglais respectent ça. Comme d'habitude, la vie de Tony se transforme grâce à ses rencontres. Deux d'entre elles vont la bouleverser.
J'ai rencontré Mark Bolan en premier et j'ai commencé à enregistrer des maquettes avec lui pour le label pour lequel je travaillais. Un jour, mon patron est venu et m'a dit Tu as l'air d'être un expert en artistes bizarres. Il considérait la musique de Mark Bolan comme très étrange. D'ailleurs, tout le monde à l'époque trouvait que Mark Bolan était un peu bizarre, avec sa drôle de petite voix, ce trémolo très rapide, ce vibrato, comme vous voulez.
You'll like this guy. His name is David Bowie.
Il m'a dit, tu vas aimer ce gars-là. Il s'appelle David Bowie. Il m'a fait écouter son premier album dans son bureau et me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je lui réponds, j'aime beaucoup, mais il part un peu dans tous les sens. Il n'a pas un style de musique. Je n'arrive pas à le mettre dans un genre. Peut-être de la musique pour la scène, pour les comédies musicales. Il me dit, t'as raison, il adore les comédies musicales. Aimerais-tu le rencontrer? Je dis, oui, j'aimerais bien. Il me dit, il est dans la pièce d'à côté, et les deux portes s'ouvrent, et voilà David Bowie qui m'attendait, car mon patron lui avait parlé de moi. Il attendait de me rencontrer. Il n'avait que 20 ans, mais on s'est aimé instantanément. Dès qu'on s'est mis à parler de nos goûts musicaux, il se trouve qu'on aimait les mêmes disques un peu obscurs, comme le groupe américain The Fugs.
Myself a bottle and I started drinking wine. I thought pretty soon I'd be feeling fine, but I couldn't get high. Oh, couldn't get high. Oh.
David and I were the only two people in the world.
Je crois que David et moi étions les deux seules personnes au monde à aimer The Fugs. Il y avait aussi Ken Nordin, tous ces noms étranges. On a passé le reste de la journée à parler de musique. On s'est baladé ensemble. C'était l'automne, il faisait beau. On a marché d'Oxford Circus à King's Road en bavardant tout du long.
Tony Visconti produit l'album Space Oddity pour David Bowie, sauf le single du même nom qu'il allait devenir le premier vrai succès de l'artiste. Il trouvait ce titre un peu trop opportuniste à l'aube du premier homme sur la Lune. En 1970, il se retrouve pour The Man Who Sold the World, l'album à la pochette censurée où l'on voit Bowie en robe.
Spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
The Man Who Sold the World, sorti en 1970. Sur ce disque, Tony Visconti, producteur qui aime mettre ses mains dans le cambouis, il joue de la basse, mais aussi des parties de piano et de guitare. Il ferait d'ailleurs des tournées avec le chanteur en tant que bassiste du groupe The Hype. Avec Bowie, il travaille main dans la main, mais il ouvre le cercle à quelqu'un qui va devenir primordial dans le son de la star. Il s'agit de Mick Ronson.
Well, on The Man Who Sold the World, we had a very creative
Pour The Man Who Sold the World, on formait un véritable trio très créatif. David et moi avions déjà fait du bon travail sur l'album Space Oddity. On commençait à lui trouver une bonne direction musicale. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que j'essayais de le canaliser, de lui trouver un style pour que le grand public le remarque. Ce qu'on savait, c'est ce qu'on voulait faire, c'était du rock. C'était l'âge d'or. On était tous les deux des musiciens de rock, mais il nous manquait un élément, c'était le guitariste. On en a rencontré deux ou trois, mais quand on a entendu Mick Ronson, on en est tombé amoureux. On le trouvait incroyable. Mon concept de la musique rock était un peu daté à l'époque, peut-être de 6 mois ou 1 an. Mick nous a mis, Bowie et moi, à jour. Il nous a dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Et même s'il venait d'un groupe de blues, il avait plein d'idées sur la manière d'utiliser la guitare de façon plus créative, comme faire plusieurs variations de tonalité au lieu d'une. On a découvert plus tard que Ronson était aussi violoniste et un pianiste de formation. Il les avait étudiés enfant. Mais quand il montait le son de son ampli au grand 11, comme le veut la légende, tous les potards à 11, il me disait, il faut que tu fasses ça avec ta basse. Il faut que tu joues de la basse aussi fort que ça. Il nous a présenté au batteur Woody Woodmansey avec qui il jouait. Le tour était joué, c'était ça la combinaison. Si j'étais resté avec David, j'aurais sans doute été un membre de The Spiders from Mars. On a enregistré à cette époque-là l'album The Man Who Sold the World. Nous trois, Ronson, Bowie et moi, sommes responsables de la création du son de cet album. C'est avec cet album, The Man Who Sold the World, qu'on a posé les fondations pour plusieurs styles de David Bowie. C'était vraiment la matrice de ce qui allait venir, mais malheureusement, je crois qu'on n'en a vendu que 15 exemplaires. Ma mère en a acheté un. La formule n'était pas tout à fait au point encore.
La formule n'est pas au point et Tony Visconti veut que sa carrière avance. Avec Bolan, il va réussir. Bolan, m'a-t-il dit, avait trouvé la cible. Bowie se cherchait encore aussi bien musicalement que pour son image. Sans dispute, sans rancune, David et Tony se quittent. De son côté, David Bowie commence sa collaboration avec le producteur Ken Scott pour 3 albums incontournables, Hunky Dory, Ziggy Stardust et Aladdin Sane. Visconti produira 9 albums, dont le remarquable Electric Warrior pour Mark Bolan. Il introduit des cordes dans la musique de T-Rex et invente un son qui est la genèse du glam rock. C'est avec Bolan qu'il perce véritablement.
Après avoir travaillé avec Bowie, c'était plus facile avec Mark Bolan. Le concept à la base de son groupe Tyrannosaurus Rex était basé sur le style poétique de Tolkien. Il a retravaillé Le Seigneur des Anneaux en musique, donc c'était un exercice assez intellectuel en fait. Mais quand tu es trop intello, la musique ne décolle pas. Ça ne se vend pas. Il fallait se rendre à l'évidence, on devait écrire des tubes. Ce que Mark Bolan a fait. Il est arrivé à cette conclusion plus vite que David Bowie. Le premier tube, c'était Hot Love, ou plutôt Ride a White Swan, en fait. Hot Love était le deuxième. C'était un grand tournant dans la vie de Mark. Oui, ses fans étaient beaucoup des adolescentes. Il y avait aussi des garçons qu'il aimait, mais le marché des filles est bien plus lucratif et il l'a conquis.
And with Mark, we sold up to...
On a vendu 60 000 exemplaires par jour de Hot Love. Il est resté numéro 1 pendant 7 semaines.
She's not very old. I don't mean to be bold about it, may I hold you?
The first song I had a very big hit with happens to be one of my favorite songs, and that would be Get It On.
Le premier morceau que j'ai fait, qui est devenu un tube énorme, c'était Get It On de T-Rex, et c'est une de mes chansons préférées. Elle m'a lancé et a fait connaître Marc Bolan au monde entier. C'était l'accumulation de 5 années de travail. Quand j'ai commencé, je ne connaissais absolument rien sur l'enregistrement. Et puis 5 ans après, je fais un disque qui marche et qui se vend à 50 000 exemplaires par jour.
Visconti finit par Kitty Bolan, ça tourne en rond. Entre-temps, David Bowie est devenu une star planétaire grâce aux 3 albums produits par Ken Scott. Bowie prendra ses aises en studio. Pour Diamond Dogs, sorti en 1974, il pense pouvoir se passer de producteur. Mais quand il arrive au mix, il se trouve submergé. Il est en train de sombrer sérieusement dans la cocaïne. Il fait appel à son vieil ami, Tony Visconti. Suite à Diamond Dogs, Visconti produit et mixe 5 des 8 titres de l'album Young Americans, dont la chanson-titre, un des plus gros tubes pour Bowie jusque-là. Mais ils vont passer encore plus de temps ensemble à partir de 1977. Et au lieu de chercher le tube, Bowie casse le moule. Il a envie de renouer avec un son européen. Ce serait la célèbre trilogie berlinoise, Low, Heroes et Lodger. Ils sont enregistrés et mixés entre Hérouville, Montreux, New York et Berlin. Ils ont pour copilote un certain Brian Eno. J'ai demandé à Tony Visconti comment marchait ce ménage à trois.
It sounds very salacious when you call it a threesome.
Ça sonne un peu cochon quand vous dites ménage à trois.
Brian and David were co-composers.
Brian Eno et David étaient les co-compositeurs. C'est ce que David avait demandé à Brian de faire.
And Brian obviously was an admirer.
David avait adoré les albums d'ambient music d'Eno et Brian admirait David. Ils s'étaient déjà fréquentés car je crois que Roxy Music avait fait la première partie de Bowie à l'époque. Je connaissais Brian de la scène musicale londonienne. Pour nos projets, il est venu en tant que compositeur, bien qu'il était déjà un très bon producteur. Mon rôle, comme toujours, était de traduire leurs idées sur bande, de les organiser, mais d'offrir mes idées aussi. J'ai fait tout ça et je jouais en plus. On échangeait nos idées musicales. Ça dépendait de qui était le plus près d'un clavier ou d'une guitare. Et j'ai fait aussi des chœurs. On a travaillé de manière très intense et très proche tous les trois pendant 15 jours. Avant que je n'arrive, Bowie et Eno avaient écrit ensemble toute la musique pour Low et pour Heroes. Et puis on s'est retrouvés pour démarrer l'enregistrement. Il a fallu que je déchiffre le tout car il y avait une quantité énorme d'idées et de concepts. Certains étaient bizarres car ils étaient basés sur la manière zen et bouddhiste d'enregistrer de Brian avec son jeu de cartes Oblique Stratégie. Avec l'artiste Peter Schmidt, ils avaient inventé ce jeu de cartes. Sur chacune d'entre elles, il y avait des petites phrases comme « Écoutez derrière la porte »,« Faites ce qui est évident », ce genre de choses. Donc, tu coupais le jeu pour trouver ces petits messages. C'était assez dingue. Donc, après les deux semaines à trois, je me suis retrouvé seul avec David pour terminer l'album. On a fait les voix, les overdubs, et on a changé de studio pour le mix. J'ai mixé les trois albums.
Et de cette trilogie est née une des chansons les plus emblématiques de Bowie, Heroes.
Récemment, j'ai déstructuré Heroes car j'avais besoin de certains éléments pour un mix destiné à l'expo David Bowie au Victoria and Albert Museum à Londres. Il n'y a à peu près que 7 instruments sur ce disque, mais il a un son énorme, grand. La plupart du temps, David arrive en studio avec les débuts d'une chanson. Parfois, il a tout à fait terminé, mais ce n'était pas le cas de Heroes. Il avait travaillé dessus avec Brian Eno. Je crois qu'il n'avait écrit que les parties de basse et de guitare, mais la structure était très vague. Quand nous l'avons apprise au groupe, ça ne s'appelait pas Heroes, elle n'avait pas de titre du tout. Elle s'appelait chanson numéro 4. C'est le guitariste Carlos Alomar qui a trouvé la couleur pour les parties de guitare rythmique. Il a posé sa signature dessus. Et il l'a tout de suite saisi. Le jeu de batterie de Dennis Davis était très solide. La chanson est vraiment née en une journée de travail. La structure changeait au rythme de notre progression. On se disait, cette partie est top. Et si on la répétait, ça pourrait devenir un refrain. Donc Heroes a démarré comme tant d'autres chansons qui étaient créées pendant les séances d'enregistrement. Il faut être David Bowie ou Brian Eno pour faire ça. Surtout David, il sait faire ça, il est rapide.
Just for one day, we can be heroes. So we lived with Heroes for a while.
On a vécu avec Heroes quelque temps.
Robert Fripp came in one weekend and he played.
Le guitariste Robert Fripp est venu un week-end et a joué sur un bon nombre de chansons de l'album. C'est lui l'auteur du très beau solo de guitare sur Heroes. Je ne pense pas que les voix étaient déjà enregistrées. Non, j'en suis sûr, en fait. Après que Fripp et Eno furent partis, David et moi avons écouté la chanson pendant quelques jours. Et puis il m'a dit « J'ai une idée ». J'avais ramené une chanteuse allemande que je venais de rencontrer à Berlin. Elle chantait dans un groupe de jazz. Elle s'appelait Antonia Mas. Je lui avais fait faire des chœurs pour le morceau « Beauty and the Beast ». Il y avait un peu de tendresse entre Antonia et moi. Comment le dire plus délicatement? Après avoir enregistré les chœurs avec Antonia, David nous a dit vouloir rester seul pour écrire les textes, donc il nous a demandé d'aller faire un tour dehors. Il se trouve qu'il écrivait les textes de Heroes tout en nous observant par la fenêtre. On était à côté du mur de Berlin, on se faisait des câlins, on s'embrassait. Je crois qu'on est devenu le deuxième couplet. En fait, il m'a dit qu'on était bien le deuxième couplet. Je ne suis pas très fier car j'étais marié à l'époque, mais ça nous a donné Heroes, cette chanson formidable. Que voulez-vous, j'étais un mauvais garçon à l'époque.
Nothing!
Heroes, David Bowie sur France Inter. La pochette de cet album paru en 1977 a été détournée par le graphiste Jonathan Barnbrook pour The Next Day, paru en mars. On devine l'ancienne pochette grise, mais le titre Heroes est rayé par un marqueur noir et la photo très graphique de Bowie est cachée par un carré blanc. C'est une des pochettes les plus réussies de l'année.
Pop, etc. avec Valley. Sur France Inter.
Hey, Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui.
Je continue ma conversation exclusive avec le producteur Tony Visconti. Tony aime la France et la France le lui rend bien. Il a beaucoup de fans parmi nos musiciens. Il a travaillé avec Raphaël, Louis Bertignac ou Marc Lavoine. Mais il a laissé une marque indélébile dans le patrimoine français avec l'album The No Comprendo de Rita Mitsouko en 1986. Je lui ai demandé pourquoi il avait accepté de travailler avec Fred Chichin et Catherine Ringer.
Fred et Catherine were... They were definitely T-Rex Bowie level.
Fred et Catherine, ils étaient vraiment du niveau de T-Rex ou de Bowie quand je les ai rencontrés. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec eux. Mon français n'est pas très bon, mais j'arrivais à entendre ce dont ils parlaient et leur état d'esprit, qui tenait beaucoup à la manière de chanter de Catherine. La voix de Catherine, c'est à la fois la meilleure voix de rockeuse, mais aussi la tradition française du chant. Un jour, je lui parlais d'une chanson de Piaf, et elle s'est tout bonnement arrêtée en pleine rue à New York, et elle s'est mise à me la chanter. Tout le monde s'arrêtait pour l'écouter. Elle le faisait dans le style d'Edith Piaf, donc j'aurais été dingue de refuser de travailler avec eux.
Ils
n'étaient pas simples, c'était deux personnes au caractère bien trempé, volcanique. Ils se disputaient souvent. Un jour, Catherine est arrivée au studio avec un œil au beurre noir et je lui ai demandé « qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a répondu « on s'est battu, j'ai perdu ». C'était génial, un peu compliqué dans le travail, mais je pense que c'est des moments qui valent la peine d'être vécus. Il faut travailler avec des gens de ce niveau-là, peu importe que ce soit compliqué, parce que c'est comme ça, et Andy, et toutes les super chansons de ce disque, je pense que chacune est un véritable joyau. Chacune est une chanson absolument parfaite, même du point de vue de la production. Ils avaient tous les deux de très bonnes idées et j'ai pu travailler avec eux de manière très participative, comme j'aurais pu le faire avec Bowie ou Mark Bolan, ou qui que ce soit d'autre. J'étais très curieux de connaître leurs idées et je cherchais à les aider en leur apportant les miennes. Donc ce furent des séances très productives avec des idées qui venaient de partout. Je n'aime pas imposer des choses aux gens. Je ne ferai jamais ça.
C'est comme ça des Rita Mitsouko. Tony Visconti réalisera aussi l'album Marc et Robert pour le groupe en 1987. Il dit regretter que les Rita n'aient pas percé aux États-Unis à l'époque, car selon lui, c'était largement mérité. Tony Visconti a vécu 22 ans à Londres, mais il a enregistré à travers le monde. Il a bien connu les studios d'enregistrement.
J'aime bien les studios en Europe. J'ai beaucoup travaillé à Paris. Et à part le château d'Hérouville, j'ai aussi travaillé au studio d'Avou, au studio Plus 30. Il y en a tellement, au moins 5. Il me semble que les propriétaires de studios français sont de véritables passionnés. Ils ne cherchent pas tant que ça à faire de l'argent. Mais ils doivent être assez riches car ils ont 4 fois plus de matériel que les studios américains. Ils ont plein de très bons micros et des appareils très compliqués, mais 4 fois plus. Et c'est pour ça que j'aime vraiment travailler en France.
Pensez-vous des home studios, Tony Visconti?
On ne peut pas se permettre de perdre le savoir accumulé ces dernières décennies. C'est très important d'apprendre comment on fait des disques parce que rien ne disparaît à jamais. Je sais qu'on a tous un peu perdu la raison quand on nous a donné des Pro Tools et des ordinateurs. Ouah, je peux faire des boucles et je n'ai plus besoin de vrais musiciens. Mais au bout d'un certain temps, on sait bien que ça devient très rasant et que les gens finissent toujours par revenir aux années 70. Et ils se demandent, mais pourquoi ces disques sonnaient-ils si bien? Et je réponds, parce qu'on utilisait de vraies batteries, de vrais micros et de vrais musiciens qui jouaient très très bien. Dans les années 70, on n'avait pas de filet de sécurité qu'on a aujourd'hui avec le numérique. Aujourd'hui, on peut couper-coller, faire du montage de manière vraiment très précise, à l'échelle microscopique, alors qu'avant, il fallait travailler son instrument et être un bon chanteur, un bon guitariste. Et les ingé-sons devaient être bons. Chaque personne présente se devait d'être un membre important et incontournable de l'équipe. Aujourd'hui, tout ça est moins important, mais on entend dans la musique qu'elle n'a plus la même profondeur que la musique faite par des grands musiciens.
Mais beaucoup de gens y reviennent. Les premiers noms qui me viennent à l'esprit, ce sont Jack White ou le groupe Air qui utilise tout cet incroyable matériel analogique.
Tout à fait. Il y a des gens comme Jack White qui ont conscience de ça, et heureusement qu'il y a plein de gens comme moi qui sont toujours là pour expliquer ce que nous avons fait. C'est très bien, et je sens qu'il y a de nouveau une recherche d'une certaine qualité dans la musique. Et vous savez, les êtres humains voudront toujours quelque chose de vrai.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Je vous en prie.
À bientôt.
À bientôt. À tout à l'heure.
Ashes to Ashes de David Bowie, extrait de Scary Monsters and Super Creeps, réalisé par Tony Visconti en 1980. Il m'a confié que c'était son album préféré de l'artiste et on entend vraiment son influence sur The Next Day. Bowie dit dans une interview qu'après cet album, il n'a rien fait de bien jusqu'à Black Tie, White Noise en 1993. Ça n'échappe à personne qui met Let's Dance dans le lot. La liste des artistes produits par Tony Visconti est longue. Stranglers, Morrissey, Sparks, Thin Lizzy ou Boomtown Rats. Je vous invite à faire un tour sur le site de Pop Etc. Tapez franceinter.fr pour la découvrir et pour écouter ou podcaster l'émission. Merci infiniment à Tony de m'avoir accordé autant de son temps précieux. Il continue à produire des artistes. Lorsque nous nous sommes quittés à New York, il partait pour enregistrer l'album du groupe Martin Capsula dans le Kentucky. Ses semaines sont rythmées par le Tai Chi, souvent avec son copain Lou Reed. Pour en savoir plus sur la vie et la musique de Tony, je vous recommande vivement son autobiographie Bowie Bolin et le gamin de Brooklyn, édité chez Tournon avec une préface de Morrissey très très bien traduite par Jérôme Soligny. Et n'oubliez pas, The Next Day est un album France Inter. Petite pensée pour le bassiste des Spiders from Mars, Trevor Boulder, mort au mois de mars à l'âge de 62 ans. Pop etc. a été réalisé par Antoine Dabrowski avec Sophie Moreno. Elle a été préparée par Corinne Valente et Caroline Rousseau. La prise de son de l'entretien a été réalisée par Tony Visconti au studio Human à New York City. Et merci beaucoup à Eric Oswald pour sa voix. Très bonne soirée sur France Inter. Juste après les infos, on parle musique. Sylvie Chapelle reçoit Arnaud.